did you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am sir. And don't call me sir.
There's no crying!
Parle de chute, mais ça chauffe, je suis cesse là-dessus. C'est formidable. Encore un autre, s'il vous plaît.
Merci. Vous six, c'est beau six Adonis qui rosissent. Pour beau six, c'est peu six s'ils sont aussi sages. Beau six dit tier six qu'on oxyse, c'est si je crisse. Oui, beau six, j'en vaux six s'ils sont aussi novices.
Beau six, c'est beau six Adonis qui rosissent. Pour beau six, c'est peu six s'ils sont aussi sages.
Mais beau six dit tier six qu'on oxyse, c'est Jean Chris. Oui, beau six, j'en vaux six s'ils sont si novices.
Beau six, c'est beau six Adonis qui rosissent. Pour beau six, c'est peu six s'ils sont aussi sages.
Car beau six, c'est beau six.
Jean Chris, c'est Jean Chris.
Tier six, c'est tier six.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses
supposes his toes are roses.
Moses
supposes
erroneously.
As Moses supposes his
toes
to be.
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Willkommen, bienvenue et une dernière fois, bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices, auditrices. Voilà, vous êtes bien sur les ondes maléfiques, sur les ondes légèrement barrées, extrêmement barrées d'Arrête ton cinéma et donc forcément, par la logique des choses, sur les ondes bénéfiques, rassurantes et intelligentes de RDWA 107.5 FM. Il est inutile, ô cher auditeur assidu, de te rappeler que tu peux double-cliquer sur le www.rdwa.fr et trouver sur le broadcast éternel cette émission. Hallelujah, brothers and sisters! Oui, je suis là pour sauver ton âme, ton soul. Ouais. Voilà, oui, ça commence sur les chapeaux de Roux. Comment dirait l'autre? Voilà, Ciné Story, quatrième du nom. Voilà, on continue, mes chers auditeurs et mes chères auditrices assidues d'Arrête ton cinéma, le Ciné Story, quatrième du nom, 1946. Un film parfait? Un film parfait? Et oui, c'est le cas rare, très rare, où un film, un chef-d'œuvre, osons le dire même, arrive à être très accessible et apprécié en même temps par le public. Alors, s'il est vrai pour nous autres Européens, il ne dit pas grand-chose, hein. Même si on en a vu des extraits dans certains films romantiques et surtout des films ayant lieu dans la période de Noël. Alors, ce film, mais quel est-il, ô cher auditeur assidu d'Arrête ton cinéma, mais la vie est belle de Frank Capra. Et oui. Qui a été réalisé d'ailleurs et produit par la Liberty Film, qui en fait sont les studios de Capra, et d'ailleurs studio qui ne fera que deux films. L'enjeu qui avait été, comment dire, logiquement distribué par la MGM, et La vie est belle, qui sera distribué à l'origine par la RKO. La vie est belle. Nous sommes donc à la veille de Noël. Oh, Noël! La vie de George Bailey. James Stewart. Hein, voilà, James Stewart qui est quand même sorti de la guerre glorifié en tant que soldat et en tant que patriote, forcément. Alors, sa vie à ce cher George Bailey ne tient qu'à un petit fil. Il lui faudrait l'intervention divine pour s'en sortir et c'est justement God himself. Hallelujah, brothers and sisters, I'm here to save your soul. Oui, Dieu lui-même et Joseph. Oui, parce que Joseph, il est souvent là, bah oui, hein, qui envoie un ange nommé Clarence. Clarence, moi, ça me fait un peu penser plutôt à une vache, mais enfin bon. Quoi qu'il en soit, c'est donc un ange qui s'appelle Clarence et qui n'a pas encore mérité ses ailes, qui va devoir s'occuper du cas de George Bailey. Mais qui est George Bailey? Voilà, Clarence va réviser son dossier et suivre l'existence de ce George. En 1919, George et son petit frère Henry, ainsi que tout plein de ses joyeux camarades, puisque George n'a que 12 ans, jouent sur la glace et Henry tombe dans l'eau. Glou glou, 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 glou. Voilà. Et il sera évidemment sauvé par George, un peu comme dans la légende de Jack Frost. Vous savez, le pote à la Reine des Neiges, hein, la femme libérée, outragée. Et ben voilà. Des années plus tard, l'apprenti du pharmacien, bouleversé par la mort de son fils, commet une erreur très grave, effectivement. Il mélange, comme ça arrive, des substances toxiques aux médicaments. Eh bien, ce brave George va prendre tout en main et sauver la situation. C'est un destin, c'est un véritable destin, mais qui dit destin dit hélas lourd fardeau. En effet, George voudrait voyager, s'éloigner à tout prix de sa fameuse bourgade de Bedford Falls pour devenir ingénieur et amener ses idées nouvelles au service des constructions populaires. Mais voilà, il devra porter sur ses épaules, sur frêles épaules, de lourdes responsabilités. Son talent sera mis à la disposition de la bourgade. En effet, le père de George, Harry Bailey, et non pas Ali Berry, rien à voir, donc Harry Bailey, et non Harry Belafonte, n'a rien à voir, c'est Harry Bailey, a créé avec son frère Billy Bailey, voilà, qui joué ici par Thomas Mitchell, le fameux doc alcoolisé de la chevauchée fantastique, une société de prêts à risque élevé pour que les clients puissent éviter le racket odieux de la vie de Monsieur Potter, joué ici par Lionel Barrymore, le grand-oncle de Drew Barrymore. Oui, c'est la grande famille des Barrymore. Alors, ce Monsieur Potter symbolise la figure dickensienne, oui, des œuvres de Charles Dickens, du cupide, voilà, du fameux cupide, le rapace, vous voyez un peu le type, le parrain, évidemment, de la ciudad. Potter considère Harry, et oui, c'est marrant ça, Potter considère Harry, Harry Potter, bon, voilà. Bon, c'était la petite blague du début de l'émission. Excusez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, assidus d'Arrête ton cinéma sur le 107.5 FM. Mais voilà, donc, Potter, le cher Potter, considère Harry comme un raté, comme un illuminé, comme un utopiste stupide. Parce que, voilà, George reprend l'affaire familiale après la mort de son père, dont son daron, avec l'aide de Mary Hatch. Mais pas la biatch, hein. Mary Hatch, jouée ici par Donna Reed. La jeune femme deviendra son épouse et la mère de ses 4 enfants. Et oui, à l'époque, on était prolixe en enfants. Voilà, donc George comprend que son père était certes un petit homme, mais il avait une très grande valeur. Et voilà, c'est pour ça qu'il va renoncer à ses propres ambitions pour sauver l'héritage familial. Il va lutter malgré toutes les difficultés et surtout la Grande Dépression, hein, qui va d'ailleurs beaucoup parler pendant cette émission, hein, de la Grande Dépression, subissant évidemment les rodomontades du sieur Potter. Voilà, parce que celui-ci va évidemment encourager toutes les manœuvres pour piquer les sous des pauvres pour s'enrichir personnellement. Oh, mais comme cela est inédit, moi je le crois pas, c'est de la science-fiction. Moi, les gens riches, ils piquent pas des sous aux pauvres. Eh ben non, parce que c'est les riches qui ont l'argent. Forcément, on peut pas voler les pauvres. Eh oui, mais voilà, Monsieur Potter va continuer. Et c'est forcément la vision de Potter d'une Amérique riche face à celle de George Bailey d'une Amérique idéalisée. Voilà, les prêts aideront ces gens à devenir de meilleurs citoyens et de meilleurs clients. Et oui, ce film manifeste l'exaltation des valeurs américaines puritaines, l'esprit d'initiative, la prise de risque, jamais dissociée d'un sentiment de la liberté individuelle. Bon, c'est vrai que depuis, on a eu un petit peu la crise des subprimes, le World Trade Center, voilà, la théorie des complots et des tutti quanti. Mais bon, à l'époque, voilà, c'était George Bailey contre Monsieur Potter, le pot de fer contre le pot d'argile ou je sais pas quoi. Enfin bon, contre David contre Goliath, voilà, le yin contre le yang, voilà, la force obscure contre la force, voilà. C'est les luttes intestines de Bedford Falls jusqu'à la veille du premier Noël après la Seconde Guerre mondiale. L'oncle Billy, après un passage dantesque où il se déverse sur Potter et perd évidemment toute la capitale de la société. Il n'y a plus d'argent. Et non, il n'y en a plus. Donc, évidemment, Potter, qui est devenu actionnaire de la société Bailey, va se venger. Et ma vengeance sera terrible. Et oui, il sera terrible. Voilà. Mais George refuse de se plier. C'est hélas la faillite. George ne possède plus qu'une chose, sa police d'assurance vie. Mais quand il vient solliciter la pitié du vieil aigri, celui-ci le jette. Vous valez plus mort que vivant. George décide donc de se jeter d'un pont. Voilà. Hommage à Mike Brandt. Mais c'est là qu'arrive Clarence. Voilà. Et ce dernier lui montre ce que serait la ville de Bedford Falls sans lui. C'est une ville atroce nommée Pottersville. Et oui, parce qu'on peut être aigri et avoir un sens démesuré de l'ego. Voilà, donc ce cher Potter, évidemment, va sucer la moelle du pauvre pour lui retirer jusqu'au son dernier denier. Et voilà, George comprend qu'il ne peut pas se suicider. Et il retourne vers ses proches. Et les habitants viennent à lui. Et il reçoit la preuve que son sacrifice, que son dévouement durant toutes ces années ne sont pas vaines. Et que le don d'amour et d'amitié est le meilleur des investissements. Tout est bien qui finit bien. George et la ville sont saufs. Et évidemment, Clarence a reçu ses ailes. Voilà, moralité de l'histoire. Plus que la ruse et l'intelligence, c'est la foi qui prévaut. La foi pure et juste. Voilà. Alors, note que la ville de Bedford est en fait un décor, hein, que cette ville n'existe pas, et que ça a été le plus grand décor construit, jamais construit dans un studio, et il y avait une surface de plus de 16 000 mètres carrés. On a fait un remake de ce film à la télé en 1977, et même ce cher JR, et oui, JR, le JR de Dallas, hein, ton univers impitoyable, eh bien, ma foi, lui aussi a eu la vision de ce que serait le monde sans sa présence. Rappelons aussi que dans le film Les Gremlins de Joe Dante, la mère de Billy est en train de regarder justement le fameux « La vie est belle » et que même la méchante du film a des airs de Monsieur Potter. Pour les enfants américains, « La vie est belle » et « Le magicien d'Oz » sont les films de Noël par excellence. Voilà, c'est un peu comme nous, les gendarmes de Saint-Tropez, l'été, c'est un passage obligé. Voilà. Et d'ailleurs, même, c'est vous dire la référence, même l'agent Dinozzo de NCIS dit que c'est l'un des films les plus grands du monde. Voilà. La vie est belle. Alors, on va passer une petite musique. Voilà. Du groupe Grammatic, The In The Whole World. Ça va un peu nous d'éteindre les oreilles, et puis on va s'attaquer à un film européen cette fois-ci.
Yeah.
chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes toujours sur le 107.5 FM et vous êtes en train d'écouter Arrêtons ton cinéma, Ciné Story, quatrième du nom. Alors, nous étions aux États-Unis avec James Stewart, avec le grand réalisateur Frank Capra. Là, c'est le retour à l'Italie. Alors, autant si les États-Unis ont été dramatisés par la Grande Dépression de 1929, autant vous dire que l'Europe, elle, a été défigurée par la Seconde Guerre mondiale. Et le voleur de bicyclette de Vittorio Di Sica en est l'exemple frappant. En 1948. Alors, pour comprendre, il est vrai, le voleur de bicyclette, il faut avoir vu l'œuvre de Sica. Son côté révolutionnaire, en 1946, Scusia, et surtout Umberto D en 1952. Alors, pour faire court, dans les années 30 et début 40, Vittorio Di Sica est avant tout un acteur célèbre en Italie. Il est l'interprète de nombreuses comédies et même de chansons populaires. Dans cette société petit bourgeois, sa figure pourrait être comparée à celle de Cary Grant. Voilà pourquoi ce virage à la sortie de la guerre en a surpris plus d'un. Devenir réalisateur. Pensez donc. Et pourquoi pas Francis Huster dans le rôle d'un méchant ou Dark Vador dansant le French Cancan on the Dark Side of the Moon. Hein ? The Dark Moon. Alors, non seulement Di Sica veut devenir réalisateur, mais en plus dans un registre qui lui est totalement inconnu. Alors, l'homme est un artiste, il est vrai, plus intuitif que cultivé, guidé par un instinct infaillible. D'ailleurs, souvent, hein, l'instinct est infaillible. Dans les phrases, c'est toujours ça. Plus que par un programme idéologique. Il se sent investi d'une mission éthique. D'écrire son pays, cette Italie natale. Il est né à Sora en 1901, mais il meurt à Paris, à Neuilly-sur-Seine, en 1974. Cette Italie natale noyée dans une période dramatique, pays vaincu et détruit par la guerre, avec un avenir plus qu'incertain, entre pauvreté et incertitude. Le film « Le voleur de bicyclette » raconte la vie, le destin, entre guillemets, d'un sous-prolétaire romain nommé Antonio Ricci. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, puisque Ricci veut dire « riche ». Donc c'est l'histoire d'un pauvre riche. Ce qui me fait penser au fameux groupe Ricci et Poveri, voilà, dans la bande originale, de l'effronté de Monsieur Miller avec Charlotte Gainsbourg. Alors, ce cher Antonio est soucieux de nourrir sa famille, comme beaucoup d'autres dans cette Rome d'après-guerre. Antonio va trouver un travail, colleur d'affiches. Mais comme il doit parcourir la cité en long, en large et surtout en travers, il lui est indispensable d'avoir une bicyclette. Ah bah oui, il n'y avait pas de Vélib à l'époque, hein, forcément. Alors sa femme va aller vendre les draps de la maisonnée pour récupérer la bicyclette qu'ils avaient déposée au Mont Piété. Antonio commence donc sa tournée, mais hélas pour lui, on va lui voler son bien. Et c'est là qu'il va commencer son chemin de croix pour récupérer justement la fameuse bicyclette. La police est impuissante et ne veut rien faire. Il va avoir le prêt d'une voiture grâce à des amis éboueurs et il va même aller jusqu'à demander à une voyante. Soudain, il retrouve le voleur, le suit chez lui, mais évidemment se trouve devant un mur d'hostilité et une omerta sans nom. De plus, il n'a aucune preuve que ce type soit le voleur du vélo. Donc, pour lui, eh ben ma foi, il est en fâcheuse posture. Hein. Rappelez-vous, comme ce cher Bailey, voilà, suite à sa faillite. Et là, soudainement, il voit un vélo laissé à l'abandon. Et il va faire cet acte inimaginable d'aller voler un vélo, alors que lui-même a été victime d'un vol. Mais comme il est super maladroit, on va le découvrir, la foule va se jeter sur lui et il n'aura la vie sauve que grâce à son fils qui se met à pleurer. On va l'humilier au plus haut degré devant les yeux de son fils et c'est ce fils qui va remonter son père dans la scène finale où il lui glissera la main dans la sienne et ils s'en iront vers un destin nouveau. Le vélo est l'élément central de cette histoire. Un objet presque anodin de nos jours, mais à l'époque, ça avait une véritable valeur. Il véhicule la condition humaine aux prises avec des problèmes extrêmes, l'indigence. Le scénario de Cesare Zavattini et la sensibilité de De Sica, avec les codes révolutionnaires du néo-réalisme, font de ce film un chef-d'œuvre. Le voleur de bicyclette est la pierre angulaire même du néo-réalisme. Tournage en extérieur, mise en avant de l'improvisation et l'inexpérience de ses acteurs, Lamberto Magnani pour le père et Enzo Stialola pour le fils. De Sica a refusé les propositions alléchantes des Américains et la présence d'ailleurs de Cary Grant en échange justement de cet argent. Aux côtés de Sciusica, de Rome Ville Ouverte ou même de Paesa de Roberto Rossellini, le film de De Sica trouve sa consécration dans le milieu artistique et intellectuel international, dont le parrain n'est autre que René Clair. On est bien loin des codes hollywoodiens, mes chers amis, de ces stars, de ces breloques. Ici, on présente la vie de tous les jours, les petites gloires comme les grandes misères, loin du rêve doré des studios californiens. En 1950, le film recevra l'Oscar du meilleur film étranger et puis en 1958, il est déclaré troisième meilleur film de l'histoire du cinéma après Le cuirassé Potemkin et La ruée vers l'or. Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Voilà. On a fait l'Europe. On a survolé l'Europe grâce à notre cher Vittorio. Et là, de nouveau, on va se tourner vers les États-Unis avec John Huston. Huston, on a un problème ? Oui, quand la ville dort. La préparation, l'exécution et surtout les conséquences d'un hold-up d'une bijouterie. Doc Erwin Redenschneider, joué ici par Sam Jeff, célèbre cambrioleur, sort de prison. Il prépare déjà son retour aux affaires avec la complicité d'un avocat véreux, Alonso Di Emmerich, joué ici par Louis Colern. Il réunit un groupe de malfrats expérimentés, un peu comme à la douze salopards, pour le casse. Dix Handley, joué ici par Sterling Hayden, rêve qu'avec la part de son butin, il va pouvoir récupérer son ranch et les chevaux que lui et sa famille ont perdu durant la Grande Dépression. Je vous avais dit que la Grande Dépression serait un petit peu dans tous les films qu'on va présenter aujourd'hui. Le bossu Gus Minnizzi, James Whitmore, doit servir de chauffeur, un peu comme Ryan Gosling dans Drive, Louis Chiavelli, joué par Anthony Curasso, est un expert des coffres-forts comme Jude Law dans Don Hemingway. Et enfin, Kobe, Mark Lawrence et le bookmaker. Un peu une équipe à la Ocean Eleven, mais en version 1950. Le plan est forcément parfait jusqu'au moindre poil de fion. Du velours dans un grand velours, tout se déroule sans un accroc. Jusqu'à ce que, forcément, me direz-vous, l'explosion de la nitro déclenche l'alarme et que les policiers débarquent un peu plus tôt que prévu. Bon, sans ça, le hold-up se passe à merveille. Mais voilà qu'un policier corrompu, Dietrich, joué par Barry Kelly, la mauvaise. Il n'a pas été averti par son indique. Son indique qui n'est autre que Kobe, le bookmaker. Et il va déclencher une réaction en chaîne fatale pour le gang. 1-1-1, ils vont être tous pris et abattus par la police. Le film a reçu les félicitations de tous. La force allégorique du récit tout au long de son déroulement, précis, affûté, sans jamais privilégier l'un des personnages, sans héros ni traître, une belle allégorie de la cupidité. Ce film choral, souvenez-vous un petit peu de Grand Hôtel, où les personnages sont campés en profondeur et même en sagesse. Alors certes, il est vrai que parmi eux se détache Dix, dont la mort parmi les chevaux reste anthologique. Stanley Hayden a été marine pendant la guerre. Mais hélas, sa présence sur la liste noire de la commission des activités anti-américaines du fameux sénateur McCarthy va flinguer sa carrière. Il aura quand même quelques belles prestations, notamment dans Johnny Guitar de Nicolas Ray, L'ultime razzia et Le docteur Falamour de Kubrick, Le privé d'Altman et 1900 de Bertolucci. Le film est adapté d'un roman éponyme de W.R. Burnett. Et c'est l'un des films les plus réussis de John Huston. Alors, pour vous indiquer, John Huston, pour les novices, hein, pour les anciens, je pense que ça parle, mais pour les novices, là, on est en terre inconnue, on est en terra incognita. Alors, John Huston, c'est le Faucon Maltais, avec Humphrey Bogart, La Charge Victorieuse, Moby Dick, Les Désaxés, L'homme qui voulait être roi, d'après l'œuvre de Rupert Kipling. Le réalisateur claquait là un film classique dans la tradition du film de gangster à l'atmosphère sombre, dans la lignée des films policiers des années 40-50. Quand la ville d'or est le précurseur et le paradigme. Alors, qu'est-ce que le paradigme ? En fait, c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses. Voilà, donc le paradigme du sous-genre des films de hold-up. Voilà, hein, le film qui repose évidemment sur la dynamique d'un gros coup, forcément parfait et forcément sans accroc, qui forcément tourne mal. Touchez pas au Grisby et du Rififi chez les hommes seront sa variante française. Et il y aura même un digne successeur en la personne du jeune réalisateur Stanley Kubrick dans L'ultime razzia, avec Sterling himself en premier rôle. Sans oublier évidemment, et là pour les plus jeunes, un hommage au sieur Tarantino dans Réservoir Dogs en 92. Notons un premier petit rôle consistant de la jeune Marilyn Monroe qui avait 24 ans à l'époque et qui joue la compagne du gangster. Le chemin de Monroe et de Huston vont se recroiser, notamment sur le tournage des Désaxés, les Misfits, avec la présence de Clark Gable. Mais ça, ce sera pour une autre histoire. Alors, mes chers auditeurs, avant de nous attaquer à un autre film, on va faire un petit passage musicales. Voilà, avec, eh bien, ma foi, Wakes Taylor, que sera
ça. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Been waiting for is here.
I have something to tell you.
Yeah.
is in. But suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this.
I don't understand.
There are a lot of things we don't understand. I don't understand.
We need answers from you. What did you expect to find?
Who's going to be our future?
It's your responsibility to do something about it.
Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock.
Now listen to me, all of you.
Voilà, Wax Taylor avec Que Sera Sera. Alors, je n'ai pas mis ce morceau pour rien. Hein. Il y a un petit indice, mais ça, je vous dirai plus tard, évidemment. Concernant le prochain film, d'ailleurs, hein, évidemment, puisqu'on est dans la suite, hein, nous continuons évidemment le Ciné Story, quatrième du nom, avec cette fois-ci un film de Billy Wilder, Boulevard du Crépuscule. Alors, quand Billy Wilder dirige Boulevard du Crépuscule, il a déjà écrit le scénario de Ninotchka en 1939, l'avant-dernier film de Greta Garbo et une comédie surtout de Lubitsch. Il a réalisé aussi Assurance sur la mort en 1944 et Le Poison en 1945. À 44 ans, il a déjà 2 Oscars. Ouais, trop fort le type. Alors, Wilder est le jeune padawan d'Ernest Lubitsch. Émigré de l'Europe centrale, comme lui, mais pas encore promu roi de la comédie. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir absolument Jeu dangereux de Lubitsch. C'est l'histoire d'une troupe polonaise sous l'occupation allemande en 40 et avec le fameux sosie d'Hitler. Et c'est d'ailleurs dont là est extrait le fameux petit passage qu'on a pu entendre de Wax Taylor. Voilà, donc voilà le pourquoi de ce morceau. Donc revenons à nos chers moutons et surtout à notre cher Billy Wilder. Wilder. Donc à l'époque, ces films sont plutôt dramatiques et Boulevard du Crépuscule contribue de manière décisive à définir le genre du film noir. Donc, synopsisme, mes chers auditeurs, Joe Gillis, joué ici par William Holden, est un jeune scénariste. Harcelé par ses créanciers, il retrouve refuge chez une ancienne star du muet, Norma Desmond, jouée par Gloria Swanson. Celle-ci habite dans une grande maison fastueuse et décadente avec son majordome, Heinrich von Strömme, un ancien réalisateur mais qui fut aussi son mari. Et oui, parce que quand tu as fini de te marier avec ton mari, eh ben, tu en fais ton majordome chez les stars. Bah oui, c'est comme ça, on ne perd rien, voilà. C'est le recyclage, tu vois. Voilà, cette actrice, Desmond, était déjà à l'avant-garde de l'écologie dans le recyclage. Donc, entre Norma et Joe, va se créer une relation, comment dire, plutôt morbide et ambivalente. Norma veut que Joe lui écrive un scénario. Lui qui est devenu son amant, son gigolo, son jouet. Joe est tiraillé entre le dégoût premier et le besoin de réussir. Et curieusement, une réelle attirance. Mais la rébellion va l'emporter, oui. Car la force est puissante à côté de lui. D'autant plus qu'évidemment, il s'est amouraché d'une jeune scénariste. Et cette erreur va lui coûter cher, très cher même, puisqu'il va y perdre la vie. La police débarque dans la grande maison et Norma, dans un état second, va jouer sa dernière grande scène. Pendant que Max, donc le majordome, si vous avez bien suivi, transi d'amour, va reprendre ses habitudes et simuler un tournage. Les caméras tournent, il est vrai, mais elles ne sont pas là pour célébrer le retour de la vedette. Toute l'histoire est en fait un immense flashback conté par le cadavre de Joe, flottant dans la piscine, à queue glouglou. Alors, dans sa version originale, le corps était déposé sur un lit dans une morgue. Mais à la projection d'essai, comme on le faisait déjà dans les grands studios d'Hollywood, hein, c'est-à-dire qu'on fait une projection pour voir, hein, parce que les gens, comme ils ont donné des sous, ils se mettaient, ils regardaient le film et puis ils disaient oui ou hum. Donc là, quand ils ont regardé cette scène avec le Maccabée, ils se sont tous mis à rire, ils ont été pris d'un fou rire général, et donc on a rayé cette scène, et c'est pour ça que ce cher Joe se retrouve évidemment mort dans la piscine. Alors, autre détail du tournage, Joe devait être joué par Montgomery Clift, mais celui-ci a refusé parce qu'il ne voulait pas être associé à ce personnage assez ambigu. Même le jeune Marlon Brando fut approché, mais rapidement rejeté, car jugé, hélas, trop peu connu. Donc c'est William Holden qui accepte, et d'ailleurs Billy Wilder le sollicitera plusieurs fois dans d'autres films. Pour ce qui concerne le rôle féminin, on avait pensé à Mary Pickford, à Paola Nigri, et forcément à Greta Garbo qui s'était retirée du cinéma. Glorion Swanson va donc la jouer et sera notre Norman Desmond. Elle-même star du mai dans les années 20. Elle avait créé d'ailleurs sa propre firme, la Gloria Swanson Picture Corporation, avec l'aide de Joseph Kennedy, le chef du clan des Kennedy, JFK, voilà. Et la légende voudrait qu'elle fût d'ailleurs son maîtresse. Donc finalement, Joseph Kennedy avec Gloria Swanson et donc John Fitzgerald avec Marilyn Monroe. Ah là 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 là, famille Kennedy. Voilà. Arrive le fameux film maudit, La Queen Kelly, dont le réalisateur Heinrich von Ström himself, le légendaire réalisateur légèrement sadomaso qui aimait la cuir et la cravache. Il propose sa version complètement décalée avec un budget colossal. Kennedy coupe les vives et le film reste inachevé. C'est la fin de la Gloria Swanson Picture Corporation. Après l'unique succès de La Faiblesse Humaine, où Gloria Swanson jouait une jeune religieuse, non, une jeune femme qui a été poussée à la prostitution par un religieux, voilà, fanatique. Voilà, autant vous dire, un film super ghetto, hein, voilà. Donc, ça sera aussi la fin de l'association Swanson et Kennedy et son divorce à cette chère Swanson avec son mari de l'époque, le réalisateur français La Falaise. Mais rassurez-vous, cette chère Gloria Swanson va avoir tout de même 6 mariages au compteur. Et oui, à l'époque, on mariait à tour de bras. Effectivement, le parlant va porter un coup à sa carrière et elle va se retirer en 1934. C'est justement le boulevard des crépuscules qui va la relever au niveau du public. D'ailleurs, dans le boulevard du crépuscule, on peut voir un extrait de Queen Kelly illustrant le passé glorieux de la star. Hormis d'ailleurs Von Ström et Swanson, on peut aussi voir la présence dans le film de Buster Keaton et du réalisateur Cecil B. 2000. Voilà, 2001, le célèbre réalisateur du Peplum. Voilà, le Peplum, c'est Cecil B. 2000. Wilder entoure son personnage d'une multitude d'extravagances et de luxe, comme par exemple les funérailles du singe de Norma. C'est un portrait féroce et noir d'Hollywood. D'ailleurs, le film va faire grincer des dents, on va crier au scandale, mais il aura tout de même 11 nominations, d'ailleurs la troisième pour Swanson, et l'Oscar du meilleur scénario, bien normal vu le boulot de Wilder, et surtout l'expérience qu'il a pu mettre dans le personnage de Joe Gillis. Voilà, c'est Boulevard du Crépuscule, c'est très curieux. Déjà, vous voyez, dans les années 50, on faisait déjà des films revival sur le film des cinémas muets. C'était quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que dès les débuts du cinéma, on parlait de la nostalgie du temps d'avant. C'est assez curieux, hein. Moi, je m'attendais que ce que dans les années 2000, on se dise, ah bah oui, mais avant, c'était mieux. Et ben, finalement, déjà, dans les années 50, on disait que c'était mieux avant. Voilà. Alors, on va se lancer sur le dernier petit film, hein, qui n'est autre que Chantons sous la pluie. Oui, en 1952, de Stanley Donen et Jane Kelly, avec Jane Kelly himself et Donald O'Connor et Debbie Reynolds. 1927. Mais qu'est-ce qui se passe en 1927? Le cinéma mondial va connaître une révolution. Elle va être bouleversée à jamais. C'est l'avènement du son. Après le chanteur de jazz, premier film parlant de l'histoire, les maisons de production entrent en crise et elles doivent s'adapter ou mourir en silence. Alors, synopsisme du film. Le film raconte l'histoire de la Monumental Film, dont les deux vedettes, Don Lockwood, joué par Gene Kelly, et Lina Lamone, joué par Gene Hagen, qu'on avait vu déjà dans La Ville d'Or de John Huston. Alors, lors de la première de leur dernier film muet, donc la première du dernier, vous suivez un petit peu, mes chers auditeurs, Don est poussé par un journaliste à raconter sa carrière, ses débuts et surtout sa gloire. Lors de l'histoire, évidemment, les spectateurs vont s'apercevoir qu'il a largement enjolivé les choses. Mais les magazines veulent une belle histoire. Et ils présentent donc le mariage de Don et de Mademoiselle Lamonte. Mais Don révèle qu'ils ne sont que amis. À la fin de la projection, le public est conquis. Ils ont le portrait du mythe hollywoodien et doivent donc filer le parfait amour. Or, le cinéma n'est qu'à apparence. Don fuit la fête de production et saute dans la voiture de la jeune Kelly Selden, qui joue ici par Debbie Reynolds. Elle repousse ses avances en critiquant son jeu de pantomime. Elle, qui est actrice de théâtre, elle considère que le jeu passe par les planches. Don est pour elle factice. Pendant la soirée, on présente la version parlante du film et c'est une grande catastrophe. Don doute de lui, mais son agent Cosmo Brown, joué par le fameux Donald O'Connor, le rassure. Plus tard, lors d'un ballet donné pour les convives, que découvre-t-il sur scène la fameuse Cathy, hein, mademoiselle le théâtre? Don, évidemment, prend sa revanche et décide de se moquer d'elle. Cathy voit rouge, prend une tarte, évidemment, la lance, la loupe et abat mademoiselle Lamonte d'une belle tarte à la crème dans la tronche. Forcément, elle est licenciée sur le champ. Un mois plus tard, la vie a repris son cours, nouveau tournage. Don ne peut s'enlever, évidemment, cette danseuse de la tête. Durant la fameuse scène d'amour, Lina lui avoue que c'est à cause d'elle que Cathy a été virée et lorsqu'il y a le baiser, elle lui avoue qu'elle le déteste. Le tournage est interrompu non pas à cause de cette révélation, mais surtout qu'il y a un immense chambardement. Le chanteur de jazz est sorti et, évidemment, tous les studios vont devoir faire de même. Donc, il va falloir se mettre au parlant, les gars. C'est fini, le muet. Voilà, donc ça bouleversifie tout. Lors d'un petit bout d'essai, le réalisateur confie un rôle à une danseuse et Dan découvre que c'est Cathy. Il prie qu'elle accepte l'offre. Il l'amène dans un studio vide, allume. Et là, c'est un superbe coucher de soleil qui va tourner vers un ciel étoilé. Et là, dans une chanson d'amour, comme savent faire les comédies musicales, il va la conquérir. C'est ça la magie. Parce que, voyez, nous autres, pauvres pécores, quand on tente de séduire une jeune fille, ben on arrive avec un petit bouquet, un petit cadeau. Mais non, avec les studios d'Hollywood, t'as carrément un studio, t'as des ingénieurs du son qui arrivent, des trucs, des effets spéciaux de la mort qui tue, qui te ressuscite et qui te retue derrière. Et ben voilà, donc ça c'est la magie de Gene Kelly, il pouvait, bon en même temps, j'avoue qu'il savait un peu danser le garçon et surtout bien chanter. Oui parce que quand on chante mal, là j'ai envie de vous dire, non seulement on ne conquiert pas sa fiancée, mais surtout on la rend sourde. Le film continue avec évidemment des cours de diction et Don s'en sort pas trop mal. Par contre, pour Lina, c'est un peu la cata parce que le problème, c'est que la demoiselle a une voix de crécelle et un accent assez prononcé. Le tournage s'achève, le résultat est plutôt dramatique, le public rigole à chaque fois que la diva ouvre la bouche. Don est plutôt abattu, il dit qu'il n'a pas de talent et que pour lui, bah, ma foi, à cause du parlant, le film va sonner son glas, c'en est fini de sa carrière, il est ruiné. Cosmo et Cathy vont lui remonter le moral et ils décident pourquoi pas faire de ce film une comédie musicale. Lina dansera et Cathy lui prêtera sa voix. Alors, le producteur évidemment est aux anges, mais il a une seule condition, c'est que la star n'en sache rien. Donc, le bonheur de Dan est au paroxysme, notamment dans la fameuse scène la plus mythique de ce film, qui se passe de nuit et sous la pluie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un petit truc comme ça. This California dew is just a little heavier than usual tonight.
Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing.
Et voilà, Gene Kelly, I'm singing in the rain. Un grand classique, me direz-vous. Ah oui, I'm singing in the rain. Alors, suite du film, le tournage est bouclé, le producteur s'attaque déjà à la promotion. Mais voilà que Lina découvre qu'elle a été doublée. Oh, mais c'est de là que vient cette expression, le fameux « je me suis fait doubler ». C'est parce qu'elle s'est fait doubler la voix. Oh, mais je suis trop intelligent, je viens de comprendre un truc, chers auditeurs et chères auditrices, de « arrête ton cinéma oh !» Oui, je peux faire ça très longtemps. Donc, évidemment, elle va menacer la production d'un procès si jamais Cathy ose, évidemment, dévoiler que c'est elle qu'on entend. Alors, la première est un succès. Évidemment, il y a toute la promotion. Lina va aller sur scène, faire un petit discours. Le public la pousse une petite chansonnette. Évidemment, elle se retrouve un petit peu coincée. Cathy va venir à son secours et chanter en playback. Hein, voilà, pendant que Lina va mimer le fait de chanter. Mais là, en coulisses, Cosmo donne et même le producteur hisse le drapeau pour que le public découvre le poteau rose. Oh, mais c'est de là que viendrait donc cette expression. Le poteau rose, c'est donc les cuisses rose de cette chère Debbie Reynolds. Voilà pourquoi le poteau rose. Est-ce qu'elle aurait qu'une jambe? Ce serait donc une actrice unijambiste? Oui, ça me paraît un peu curieux. Je vais approfondir le sujet. Donc, évidemment, Lina s'enfuit et Cathy était prête à fuir elle-même, mais Don la retient. Et voilà, désormais, Cathy sera la star de la Monument Film. Voilà un film... Dansons sous la pluie comme la MGM sait si bien les faire. C'est même d'ailleurs le plus emblématique de genre de film avec le western. Gene Kelly et Stanley Donen ont participé à la mise en scène et aux chorégraphies. D'ailleurs, notons pour la petite histoire, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, la présence de Sid Charis dans un petit rôle secondaire, elle qui deviendra l'égérie des comédies musicales des années 50, comme Tous en scène en 1953 ou Brigadoon en 1954, tous les deux de Vicente Minnelli, le papa de Lisa Minnelli. Voilà, hein, Lisa Minnelli et Cabaret, voilà, New York, New York. New York, New York, enfin voyons. Alors, et puis la Belle de Moscou avec un autre danseur de talent, Fred Astaire. Voilà les fameuses comédies musicales qui ont tant bercé notre enfance. Enfin, je parle des plus anciens, évidemment. Depuis, on a fait High School Musical. Autant vous dire que ça tape haut, hein. Ainsi que Glee ou ma foi aussi d'autres films musicaux, mais bon, hein, malencontreusement, qui ont quand même pas ce petit toucher magique qu'avaient les comédies musicales de l'époque, de l'âge d'or de la comédie musicale qui se situe entre les années 40 et 50. Après, il y a eu d'autres versions un peu plus modernes, comme le fameux Air de Milos Forman sur les Hi-Fi, sur les Hippies, ouais, l'âge of Aquarius ou Let the Sunshine In. Voilà, issu de cette bande originale de ouf. Mais bon, là, c'était autre chose, hein. Là, c'était vraiment un peu à l'ancienne. Donc, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, oui, parce que je parle souvent avec un petit vent comme ça, ça me beaucoup, ça me donne un hasard. Oui, un hasard. ATC, on a un hasard qui zozote. Donc voilà, mes chers auditeurs et donc mes chères auditrices, je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser, ma foi, continuer votre belle soirée de ce mercredi ou, pour la retransmission, continuer votre dimanche matin, puisque nous passons à 7h du matin le dimanche, voilà. Et puis, eh ben, on va se dire à la semaine prochaine pour la suite de notre ciné-story, hein. On attaquera d'autres films, d'autres légendes, que ce soit des films ou des stars, hein. Et puis, évidemment, chers auditeurs et chères auditrices, je vous la souhaite bien bonne. Oui, je sais parler, je sais m'exprimer. Je suis trop fort. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai parlé de ces quelques films, hein, que ce soit évidemment La vie est belle, qui il est vrai pour nous autres Européens, ça parle pas beaucoup. On serait aux États-Unis, évidemment, ça serait dans la conscience collective. On dira ah bah oui, bien sûr, on le connaît, hein, évidemment. Et puis aussi le cas du voleur de bicyclette, peut-être un peu plus connu par les cinéphiles que par l'ensemble du public, parce qu'il est vrai que le néo-réalisme, ben, ma foi, a un petit peu passé de main, hein, on est passé à autre chose, et le cinéma italien, à part Nina Moretti, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, voilà, et puis, ben, ma foi, d'autres films comme Le Boulevard du Crépuscule ou Quand la Ville dort, qui sont évidemment des œuvres plus sombres, mais qui n'en démérite pas moins, et évidemment la comédie lumineuse Dansons sous la pluie. Eh bien mes chers auditeurs et mes chères auditrices, je vous kisse la molaire et je vous dis à la settimana prossima. Ciao ciao, Eva, ciao ciao ciao.